Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance, pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur te convient. Par le biais de ce message, laisse ton esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Le sujet que je vais aborder à partir d'aujourd'hui, j'ai senti depuis un moment que le Seigneur voulait que j'en parle, mais j'avais des difficultés dans mon cœur à accepter ce mandat, même convaincu que je devais en parler. J'ai vu beaucoup de gens qui passent par des situations de douleur intérieure, d'attente, parce que ce n'est pas la première fois que nous abordons le sujet à l'église. Et certains attendent, ils sont sur le point de se décourager, toutes ces choses. Et quand j'ai posé ce problème à Dieu, il m'a dit bien au contraire. Il faut que ces personnes-là écoutent encore, comprennent encore, essayent encore, n'abandonnent pas. Nous avons déjà enseigné ces choses. Des couples ont connu de véritables bénédictions les années passées. Tu as béni les familles à Vase d'Honneur. Alléluia. Il y en a encore d'autres qui connaissent des situations difficiles, compliquées. J'ai prié le Seigneur. Il a dit encore, parle encore. Même lorsque ça ne fonctionne pas, il faut toujours essayer. La parole, elle est la vérité. Elle a restauré plusieurs. D'autres sont encore dans l'attente. Et je crois sincèrement, alléluia, que des choses fortes et puissantes se produiront dans cette église. Alléluia. Alléluia. Qui était là lors de nos derniers messages sur la famille? Qui a suivi? Bon, je crois que le dernier message, c'était le vin nouveau, n'est-ce pas? Le vin nouveau dans le couple. Qui a déjà écouté ce message? Qui n'a jamais écouté le message sur le vin nouveau? Ah! En fait, c'est en fouillant mes notes. Je me suis rendu compte que c'est en 2009 que j'ai traité ça. J'ai dit, quoi? Mais il y a si longtemps que ça? Amen. Ok. Donc, la plupart de vous n'avez jamais entendu ce message. Amen. Il faut le prendre. Amen. Mais on ne va pas reprendre à l'identique. Dieu a ouvert mes yeux sur beaucoup d'autres points. Aujourd'hui, je veux, ça, on n'a pas le temps. Maintenant, on va juste lancer l'esprit de l'introduction. Et dimanche prochain, nous lançons la machine, véritablement. Alléluia. Il faut savoir aussi que cette année, notre thème, c'est quoi? Les douze protocoles du royaume. Voilà notre thème de l'année. Les douze protocoles du royaume. Je rappelle que protocole, c'est pas un mot qui est compliqué, c'est pas un grand mot. Protocole peut être traduit par procédure. Donc, un protocole, c'est une procédure à exécuter pour entrer en possession d'une chose qui est déjà à nous. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si ton père t'a légué un héritage, l'héritage d'une maison, d'une plantation, déjà tu es propriétaire de cette plantation par la déclaration de ton père. Mais tu ne pourras pas jouir des fruits de la plantation, tu ne pourras pas utiliser la maison qu'il t'a laissée si tu ne suis pas le protocole ou si tu ne respectes pas la procédure. C'est-à-dire, ton père en laissant, il a écrit un testament qui a été laissé chez le notaire. Il faut que tu ailles, il faut que tu respectes un certain nombre de documents, que tu respectes un certain nombre de procédures, alléluia, pour que ce qui est à toi soit effectivement à toi. Alléluia. Alléluia. On peut t'offrir une voiture, on te dit voilà la voiture, mais pour que tu puisses jouir de la voiture, il faut que tu respectes une procédure. C'est quoi la procédure? C'est avoir le permis de conduire. Donc, tant que tu n'as pas respecté le protocole de la conduite, la procédure pour conduire, tu ne pourras pas utiliser ce qui est à toi. La voiture est à toi, mais tu seras égal à un piéton. C'est-à-dire, tu es propriétaire d'une voiture, la plus belle voiture est garée dans ton garage, mais parce que tu n'as pas le permis, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas de voiture. Et je vous ai dit ceci, beaucoup de chrétiens vivent comme les païens, ne jouissent pas des grâces divines, des promesses de Dieu, parce que ces chrétiens-là ne respectent pas le protocole. Ces chrétiens sont propriétaires de beaucoup de grâces et de faveurs. Écoute-moi, si tu es en Jésus, il y a plein, énormément de choses que Dieu t'a déjà données. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de respecter le protocole. Amen. Dieu a déjà béni ton mariage. Dieu a déjà béni Il t'a déjà béni, il t'a rendu capable de rencontrer la personne de ton destin. Toutes ces choses-là sont en toi. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, certaines choses sont dans ta vie. Dieu t'a tout donné, car la Bible dit, nous avons tout reçu en Christ. Pas nous allons tout recevoir, nous avons tout reçu en Christ. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, pour ta joie, pour ton bonheur. Les choses sont à toi. Alors tu te demandes, mais pourquoi Dieu m'a donné la fortune, Dieu m'a donné le travail, Dieu m'a donné déjà des enfants, Dieu m'a donné ceci. Comment ça se fait que je ne jouis pas de ces bienfaits? Et tu constates que ta vie ressemble à la vie des païens. De même que quelqu'un qui n'a pas le permis, il est tout aussi piéton que quelqu'un qui n'a pas de voiture. Tu as une voiture sans permis, tu es obligé de prendre les bus, de prendre les wororo, de prendre les taxis. Parce que tu n'as pas encore validé le protocole. Je viens vous parler de la part de Dieu, afin que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, valide son protocole. Dis avec moi, je valide. Alléluia. Alléluia. Et nous avons pris pour texte de base de notre héritage le passage de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, cite un ensemble de 12 bénédictions. Et nous avons montré en introduction des protocoles que ces bénédictions-là sont en fait notre héritage. C'est-à-dire, nous les possédons déjà. Nous avons étudié les mois précédents le protocole de la porte des territoires, c'est-à-dire comment être au bon endroit au bon moment. C'est un don, c'est une grâce que Dieu vous a faite, c'est-à-dire l'aptitude à être au bon endroit au bon moment. Moi, pendant que j'étais en croisade, mon épouse m'a donné un témoignage puissant. Comment Dieu l'a préservé. Cela, j'ai vu, j'ai dit vraiment, la bénédiction des territoires, c'est quelque chose de puissant. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui vous arrivent, vous pensez que c'est de la chance. Ce n'est pas de la chance. Il y a certaines faveurs que vous activez dans votre vie, qui vous préservent et qui vous gardent. En l'occurrence, le thème que nous avons étudié les mois précédents. Être au bon endroit au bon moment. C'est une bénédiction, c'est un héritage qui agit à tout instant de votre vie. Qui agit pour des activités ou des zones d'habitation à durée longue. Mais même pour des moments, pour des instants de votre vie, vous devez être à des endroits précis. Il y a un moment où tu dois être, par exemple, pour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Il y a un endroit où tu dois être à un moment donné, n'est-ce pas? Si tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux me marier, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Quand Dieu t'exauce, il envoie ton mari quelque part. Il envoie, donc il envoie au culte. Mais ce même dimanche-là, toi tu as sommeil. Donc tu n'as pas le rencontré. Tu as dit, Seigneur, tu ne m'as pas béni. Depuis là, je prie pour le mariage, tu ne le fais pas. Mais c'est qu'en fait, peut-être que tu as ouvert les autres portes de faveur. C'est-à-dire, tu manifestes la faveur de la foi. Quand tu pries, Dieu te répond. Mais il y a la toute première bénédiction que tu n'as pas. La première bénédiction, c'est ton premier héritage. C'est la faveur qui te donne d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu vas rater des contrats, tu vas rater des marchés. Tu vas prier. Parce que quand on prie, on a démontré clairement que lorsqu'on prie, Dieu envoie notre exaucement dans un lieu précis. Ça ne vient pas partout. Ce n'est pas parce que tu as prié, que tu as demandé de l'argent à Dieu, que l'argent va apparaître dans toutes les villes, partout où tu seras, l'argent va te suivre. Ce n'est pas vrai. Il y a un autre des héritages qui fait en sorte que la bénédiction te poursuit. On va le toucher. C'est-à-dire, ce genre de cette faveur-là, elle amène l'héritage à te suivre là où tu es. Mais on n'y est pas encore. Au début, pour commencer, il faut être dans un endroit, à un moment donné. Et cet endroit-là, ce lieu-là où tu dois te trouver, où cette activité professionnelle est comme une voix inconsciente, ou quelquefois même consciente, qui est à l'intérieur de toi. Alors ma femme me donnait ce témoignage hier, elle dit vraiment, qu'elle m'appelait, elle dit, je tremble encore. Je dis, comment ça? Elle dit, vraiment, ce qui vient de m'arriver. Donc elle était dans sa voiture hier. Non, je dis, en tout cas, vraiment, en tout cas, je bénis Dieu. Je suis content de la voir parce qu'on aurait pu être à l'hôpital aujourd'hui. Elle me dit, donc elle suivait une voiture pleine de tôles. Pleine de tôles. Et puis, elle était là, il y avait une voiture entre le camion et elle. Et la voiture, à un moment, s'est garée sur le côté. Et puis, donc, elle suivait maintenant le chargement de tôle. Et il y avait un embouteillage, donc, ils avançaient très lentement. Et à un moment donné, c'est comme si, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Elle a été distraite. Elle ne sait même pas pourquoi. Vous voyez, c'est comme ça la porte des territoires fonctionne. Et le camion s'est avancé sur une bonne distance. Et elle est restée sans découler. Ça vous arrive quand on est dans les bouchons, n'est-ce pas? Elle est restée comme ça. Bon, la voiture allait peut-être klaxonner. Je ne sais pas si elle a klaxonné pour dire avance. Et quand elle revient, on ne sait pas, mais il y avait une barre de fer qui protégeait, je ne sais pas, les tôles, qui a sauté. Donc, les tôles sont tombées sur la voie. Et la distance d'où elle s'était arrêtée était suffisante pour qu'aucune tôle l'atteigne. Et il y a une barre de fer qui protégeait les tôles là, qui s'envolait. Elle dit, ah, même si les tôles m'ont raté, la barre là arrive vers moi. Et la barre a sauté la voiture. La barre arrivait vers la voiture, la barre a sauté la voiture, une grosse barre de fer, et n'a même pas touché le conducteur suivant. La barre était comme projetée sur la voie, de l'autre côté. Et ça n'a pas touché. Alléluia. Donc vraiment, on bénit Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Donc elle m'a dit ça juste avant ma campagne. J'ai dit, ah bon? Ah là, mais Dieu est puissant. Merci Seigneur d'avoir gardé mon épouse. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme ça la faveur territoriale fonctionne. Dans les instants de votre vie, vous avez l'impression que c'est une distraction. Vous avez l'impression que c'est un choix. Vous avez l'impression, vous ne savez pas, mais quelque chose vous arrête à un moment donné. Il y a des fois, ça vous arrive, mais il y a des fois, ça ne vous arrive pas. Pour beaucoup, c'est très aléatoire. L'enseignement que nous avons écouté nous explique que ce n'est pas en fait un hasard. Il y a des attitudes que tu déploies, qu'on appelle les protocoles, le protocole des territoires. Être au bon endroit au bon moment, c'est ce qu'on a étudié la dernière fois. Si tu respectes cela, il n'y a rien à faire. Ça fonctionne toujours. Amen. Ok. Mais être au bon endroit au bon moment, c'est une chose. Et le second enseignement qu'on va étudier, c'est le deuxième élément de notre héritage. Il y en a 12. Il y a 12 bénédictions, dont 12 points de notre héritage en Christ. Et le second point, c'est concerne, nous l'avons appelé la porte de Siméon. Dis avec moi Siméon. Mais bon, si tu ne retiens pas le nom, ce n'est pas grave. Amen. Elle dit ceci, Deutéronome 28, verset 4. On va lire ensemble, si à l'écran, ça s'affiche. On le lit ensemble, comme une grande famille. 1, 2 et 3. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, sont bénies. Amen. Amen. Ok. Cette bénédiction, qui est la deuxième, elle suit celle qui dit, tu seras béni dans la ville, dans la campagne. La première bénédiction, c'est le territoire. La deuxième bénédiction, qui est la deuxième clause de l'héritage en Christ, quand tu as donné ta vie à Jésus, voilà ce que Dieu fait en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau. Cet héritage-là seulement contient plusieurs choses. Mais ce qui m'intéresse dans cet héritage aujourd'hui, c'est un des points, la bénédiction du fruit des entrailles. Dis avec moi, le fruit de mes entrailles est béni. Qu'est-ce que ça signifie, le fruit de mes entrailles est béni? Ça signifie que tu vas enfanter, Dieu va te rendre fécond, c'est pas ça? Parce que le fruit de tes entrailles, c'est le bébé, c'est l'enfant qui sort de toi. Le fruit de tes entrailles, c'est les enfants aussi dont je viens de parler, ceux que tu décides d'accepter comme tes enfants. Amen. C'est une partie du fruit des entrailles. Un autre aspect du fruit des entrailles, c'est la sagesse, l'intelligence que Dieu te donne. Amen. La créativité, l'inventivité est considérée aussi comme un fruit des entrailles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu dit, je vais te rendre fécond. C'est la même chose lorsqu'il dit, je vais bénir le fruit de tes entrailles. Ça veut dire, je vais faire en sorte que tes entrailles soient bénies, que tu aies des enfants bénis. Autrement dit, que ta maison soit bénie. Alléluia. Alléluia. Cette bénédiction, je m'en suis rendu compte, est aussi la toute première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. C'est pratiquement la même. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, etc. Donc, ici, on constate que le premier héritage, qui est le territoire, avait déjà été accompli. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le bon territoire, dans le territoire dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc, à leur époque, il n'y avait plus à manifester le premier héritage, qui est être au bon endroit au bon moment. Ils étaient déjà au bon endroit. Amen. C'est parce que nous, on a quitté le bon endroit, qu'avant de nous donner les autres bénédictions, Dieu doit d'abord nous ramener sur les territoires où sa grâce va venir dans notre vie. Amen. C'est la raison pour laquelle, parmi les 12 bénédictions de Deutéronome 28, la première, c'est de te ramener d'abord dans ton Éden, c'est-à-dire dans le territoire de faveur. Alléluia. Après, maintenant, il revient sur la vraie première bénédiction. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas dit « Je vous bénis, ayez l'argent ». La Bible dit « Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image et il les a bénis ». Et sa bénédiction a consisté en ceci, il les a bénis en disant « Soyez féconds ». La bénédiction de Dieu n'a pas consisté à dire « Ayez des milliards, ayez des voitures, voyagez ». La bénédiction de Dieu a consisté à dire simplement « Je bénis vos entrailles, soyez féconds ». Cette bénédiction est la même que celle de Deutéronome. « Je bénis le fruit de tes entrailles ». Amen. Amen. Parce que être fécond, c'est aussi bénir ton intelligence, bénir ta créativité. Amen, amen, amen. Quelqu'un me donne un bon amen.
Amen.
Alléluia. Pour réaliser cette bénédiction de la fécondité, Dieu marie d'abord Adam et Ève. Je vous ai dit la dernière fois, beaucoup le croient, pensent que c'est ça, que le mariage là, ce n'est pas une bénédiction. Se marier, je n'ai pas dit que c'est une malédiction. Hein. Je dis, mais le mariage en tant que tel, ce n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire, faut pas prier, ne prie pas en disant, Dieu bénis-moi, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme qu'il me faut. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi par un mariage heureux. La bénédiction, c'est ce qui va sortir de ton mariage. Ce n'est pas le mariage même. Le mariage est juste un moyen, un instrument pour produire quelque chose. Le mariage est une étape. C'est très important de saisir cela. Il faut comprendre. Le mariage est une étape vers ton destin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, si vous avez un enfant, vous venez et puis vous lui offrez une voiture. Une vraie voiture, hein, pas les voitures des enfants. Est-ce que ça a un sens? L'enfant a 10 ans. Il dit, papou, regarde comment ton père t'aime. Je t'offre pour tes 10 ans une Mercedes classe S, dernier cri. Airbag, tout ce que tu veux. Full option. L'enfant a 9 ans. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi? Parce qu'en vérité, la voiture même n'est pas une bénédiction. La voiture est un instrument de travail, de déplacement. Et si l'enfant n'est pas apte à se mouvoir, à se déplacer, à aller au travail, à faire certaines choses, la voiture n'est pas pour une bénédiction. La voiture ne l'aide en rien. C'est pareil. Le mariage n'est pas une bénédiction. Le mariage est un instrument. Est un instrument pour atteindre certaines choses. D'où viennent les crises? D'où vient le problème avec dans le mariage? C'est que pour la majorité des personnes, le mariage est une finalité. C'est quelque chose qu'ils cherchent. Mais vous ne pouvez pas obtenir de Dieu si vous demandez mal. Dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Je me suis demandé, mais pourquoi il parle comme ça, ce monsieur? Pourquoi il dit qu'on n'obtient pas parce qu'on demande pour satisfaire nos convoitises? Jacques, l'apôtre Jacques, était en train d'écrire à des chrétiens. Je ne crois pas que ces chrétiens-là étaient en train de prier pour Seigneur, j'ai envie d'aller tuer quelqu'un, j'ai envie de commettre l'adultère. Ce n'est pas des prières comme ça qu'il demandait. Ce n'est pas des prières comme ça qu'il faisait. Il devait prier pour des sujets plus ou moins chrétiens. Maintenant, il dit, c'est-à-dire, je suppose que les gens priaient pour leur mariage, ils priaient pour avoir des enfants, ils priaient pour avoir du travail, et il leur dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Et c'est la même chose que je veux dire à la plupart. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous demandez le mariage, pas selon le plan de Dieu, mais selon votre idée et votre image, selon l'image que vous avez vous-même. Il y a une différence. Quand celui qui demande pardon pour sa propre convoitise, c'est celui qui prie mal, qui demande pour un besoin qu'il veut combler, qui n'est pas le besoin que Dieu a envie de combler. C'est ça la convoitise. La convoitise, c'est vouloir une chose pour autre chose que ce pour quoi elle est censée venir. Par exemple, tu n'as vraiment pas besoin d'une voiture. Et tu pries. Le gars, il cherche une voiture pour faire son travail parce qu'il est agent commercial, il a besoin d'un véhicule. Toi, tu n'en as même pas besoin. Tu es à la maison, tu dors seulement. Tu manges, tu t'occupes de la maison. Tu es détendu, tu es là-bas. Et tu commences à dire, Seigneur, donne-moi la voiture. Il va te dire, mais tu veux la voiture, pourquoi? Et non, parce que mes copines aussi ont une voiture à Abidjan. Bon, la vérité, c'est que tu n'as pas dit ça à Dieu. Mais tu as peur de Dieu. Tu as dit, non, quand même, à mon âge, on doit avoir une voiture. Tu vas trouver des raisons pour blaguer Dieu. Mais Dieu connaît ton cœur. Et tu n'obtiendras pas la voiture parce que tu la demandes mal. Tu la demandes pour satisfaire une convoitise. Donc quand on parle de convoitise, ce n'est pas trop le sujet même qui est le problème. C'est qu'est-ce qui t'amène à demander cette chose? Pourquoi ton couple n'est pas béni? Pourquoi tu pries pour qu'il y ait la paix dans ta maison et la paix n'arrive pas? Tu demandes à Dieu que mon conjoint revienne, il ne revient pas. Tu demandes à Dieu, je veux rencontrer l'homme que tu as choisi pour moi. Ça fait 10 ans que tu pries et tu ne le vois jamais. Les gens qui viennent t'abandonnent. Des gens bizarres, ce sont les gens bizarres seulement qui te rencontrent. Jacques dit, tu n'obtiens pas parce que tu demandes mal. Tu as demandé, tu as fait des prières, des proclamations. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je n'ai pas en moi de convoitise. D'autres peut-être vont le reconnaître. Mais écoute la suite de cet enseignement, les jours qui viennent. Nos problèmes dans les couples viennent de ce que nous abordons mal le sujet. Le sujet n'est pas traité comme Dieu aurait souhaité qu'on le traite. Nous allons apprendre cela les dimanches qui viennent. Amen. Ah, nous allons parler de ces choses. Nous allons parler de beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen, amen. Alléluia. Le mariage est sacré. Le mariage est important. On va voir Hébreux chapitre 13, verset 4, 10. Hébreux chapitre 13, verset 4. Le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Dans la version parole de vie, il est écrit, tous doivent respecter le mariage. Dans la version parole vivante, il est écrit, le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel. Amen. Le mariage est sacré. C'est tellement sacré pour Dieu. Ça veut dire, ton mariage intéresse Dieu, mieux que tu ne le comprends. Et ce n'est pas une plaisanterie. Donc, c'est tellement important pour Dieu de te dire, il faut savoir que le mariage est sacré. Et il ne va pas te laisser rentrer dans une chose qui est sacrée pour lui de manière désordonnée. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir toutes ces choses-là. Amen. Dis avec moi le protocole. Si tu offres une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis et qui se met à la conduire, il va tuer des gens. La voiture ne sera plus une bénédiction mais une malédiction. Le mariage peut devenir une malédiction. Le mariage peut détruire. Le mariage peut détruire ton âme. Le mariage peut détruire tes sentiments. Le mariage peut détruire tes rêves. Si tu n'as pas respecté le protocole du mariage, le thème, c'est le protocole pour un mariage réussi. Les procédures, un protocole, ce sont des règles. Pour réussir. Alors, si ton frère a des problèmes, c'est que tu as sauté quelques points du protocole. Tu vas revenir là-dessus, corriger cela pour que ton foyer fonctionne. Si ça fait 20 ans que tu atteins, depuis là tu ne trouves pas l'homme de ta vie, c'est que tu as dû sauter 2 ou 3 protocoles dans la rencontre du conjoint. Dans cet état-là, si tu te maries, ton couple va faire un accident. Comme quelqu'un qui conduit une voiture sans avoir le permis. La voiture était censée l'aider à aller au travail. Mais si la voiture arrive dans sa vie, sans qu'il n'ait respecté le protocole, aller passer le permis, apprendre le code de la route, savoir qu'on s'arrête au feu rouge, qu'on s'arrête au stop. S'il ne sait pas ces choses, la voiture va tuer, elle va faire du mal. Tout ce qui est bénédiction peut aussi détruire si c'est mal géré. Le mariage n'est pas une bénédiction, mais ce moyen-là peut détruire s'il est mal géré. Amen. Amen. Pourquoi il nous faut connaître le protocole? Alléluia. On se souvient rapidement que ce fut le premier miracle de Jésus. Cela sera notre texte, sera un de nos textes de base. Amen, amen. Jean chapitre 2, verset 1. Il est question du tout premier miracle de Jésus. Il est dit au verset 1, 3 jours après, dis avec moi, 3 jours après. Depuis là, je lisais le texte, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il dit 3 jours après quoi? Lève-moi, 3 jours après quoi? Il dit 3 jours après. Le chapitre 2 commence comme ça. Ça veut dire que le miracle qui a suivi répond à quelque chose qui s'est passé juste avant. Amen. Amen. Si vous lisez Jean chapitre 1, le dernier verset, parce que là c'est chapitre 2, verset 1. En fait, Jésus fait une déclaration. Il dit à ses disciples, maintenant, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Voici la déclaration qu'il a faite. Et c'est sur cette déclaration qu'il a dit 3 jours après. Donc 3 jours après qu'il ait dit que le ciel va s'ouvrir, Jésus va bénir le mariage. Ce que j'ai compris, une des choses, c'est que le foyer est un instrument pour voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre dans ta vie. Alléluia. Si ton mariage réussit, si ton mariage réussit, je pourrais te dire, le mariage n'est pas une finalité, c'est une porte. C'est un moyen. Un moyen pour quoi? Un moyen pour que le ciel soit ouvert. Il dit aux disciples, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. C'est une déclaration. Je comprends pas pourquoi il vient le après. Faut continuer. Comment on dit, un jour Jésus est parti dans les noces de Cana. Tu peux commencer la phrase comme ça. Un autre jour, Jésus était aux noces de Cana. 3 jours après avoir fait cette déclaration. Comme si le miracle qui allait suivre était rattaché à la déclaration qu'il a faite 3 jours auparavant. L'ouverture du ciel. Mes amis, le tout premier miracle de Jésus, ça a été de bénir des noces. C'était un symbole. Le premier miracle de Jésus n'a pas consisté à faire marcher des paralytiques. Ça n'a pas consisté à donner à manger à des gens. La Bible dit que Jésus a été invité à des noces. Quand il est arrivé à ses noces, on aura l'occasion de lire ce passage. Il n'y avait pas de vin. On va voir dimanche prochain. Le vin, c'est l'amour. C'est écrit dans le livre des Cantiques des Cantiques. Le véritable amour. Ce que le Seigneur dit, c'est que dans notre siècle, vers les temps de la fin, le vrai amour va disparaître. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, sa mère l'a interpellé. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, Madame, qu'est-ce qu'il y a en toi et moi? Et je fais cette remarque. Jésus n'était pas un vigneron. Jésus ne fabriquait pas du vin. Sa maman savait que son fils Jésus était charpentier. Pourquoi il n'y a plus de vin? Elle vient demander. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le vin? Jésus lui répond, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dans cette passage de mon heure n'est pas encore arrivée, je vous parlerai des saisons du mariage, des saisons de la vie. Parmi le protocole, il y a une affaire. Est-ce qu'on me suit ce matin? Parmi le protocole du mariage, il y a une affaire d'heure. Il y a une affaire de temps. Il y a une saison qui est favorable à l'attrait, à l'attirance de l'homme ou la femme de ta vie. C'est une saison. C'est ça qu'on appelle ton heure arrivée. L'heure de ton mariage. C'est une période. Cette période-là, notre système du monde actuel amène la plupart des jeunes à commencer à dépasser la saison avant de penser mariage. Ça fait un retard par rapport à la saison. Quelqu'un me suit? Je parlerai des saisons. Et quand vous passez la saison, ça devient un peu plus compliqué de vous marier. C'est pas dire que c'est impossible. C'est pourquoi Jésus dit, enseigne quelque part, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y a une saison. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Il faut que vous compreniez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a une saison où on est très mariable. Et c'est une saison où inconsciemment, dimanche dernier, vous savez, je vous ai parlé des sons que les hommes n'entendent pas. Il y a une période, ma soeur, écoute-moi, où il y a comme un parfum ou bien une sorte de voix que personne n'entend, qui émet de toi. Et que l'homme ou la femme qui t'est destinée entend sans savoir qu'elle a entendu. C'est cette voix-là intérieure qui fait que le monsieur, là où il est, quelque part aux États-Unis, se dit, mais si je partais en vacances à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Et c'est une voix qui lui dit, va faire le culte ce jour-là à vase d'honneur. Et c'est une voix qui lui a dit, quand il est arrivé, le protocole l'a fait asseoir quelque part. Et tu étais sa voisine ce jour-là. Et ce jour-là, il t'a demandé le stylo et vous avez fait connaissance. Quelque temps plus tard. Amen. Il y a une saison, la saison du mariage, elle est déclenchée. Et quand elle arrive, il faut en profiter. Lorsque vous la passez, soit vous attendez, on va l'expliquer, un autre cycle,
ou vous rachetez. Donc,
quelqu'un est-il avec moi? Viens voisin, ça va aller, il faut comprendre juste les lois.
Dans le couple, il y a une saison, il y a des saisons lorsqu'on est marié. Vous savez, les couples ont des problèmes parce que les hommes ne respectent pas les saisons. Il y a une saison dans le couple où on ne doit pas trop attendre de son conjoint. Mais on doit bâtir. Dans cette saison-là, si tu demandes à ta femme ou à ton mari de faire exactement ton rêve, tu seras déçu. Parce qu'il ne peut pas, en fait. C'est pas... Vous savez, c'est Dieu qui a tout créé. Il sait comment il a fabriqué l'homme. Il y a des résultats que vous souhaitez. C'est un peu comme si ton enfant est amené à un jour plus tard à s'occuper de toi en tant que maman. Mais il y a des saisons. Lorsqu'il est bébé, là, c'est toi qui t'occupes de lui. L'enfant est là, l'enfant a 10 ans. Petit, regarde, petit, là. Tous les, regarde au village ici, là. Tous les enfants s'occupent de leurs parents. Toi, tu as 10 ans, tu donnes rien à ta maman. Rien à ta maman. Si on te voit, on va dire que tu es fou. On va dire que tu es folle. C'est pareil. Dans le monde spirituel, les anges regardent, mais est-ce que tu sais que tu es folle, même? Tu dis, mon mari, il n'est même pas attentionné. Il ne fait même pas ceci pour moi. Il ne fait pas cela. Je voulais qu'il me dorlote comme ça. Il ne m'a pas dorloté comme ça. Attention, est-ce que c'était la saison? Ce n'est pas qu'il ne va pas le faire. Il y a des fruits. Vous savez, quand on plante un manguier, on attend le fruit des mangues. Quand on se marie, il y a des choses qu'on attend. Mais si tu as planté un manguier, le manguier prend un temps pour donner ses mangues. Quand tu commences ton foyer, le foyer prend un temps pour donner son fruit. Si tu veux manger le fruit trop tôt, tu seras déçu. Et parce que tu es déçu maintenant, tu ne vas plus croire en ton conjoint. Et parce que tu ne crois plus en lui, quand même le temps va arriver, vous vous êtes tellement bagarré que vous avez cassé l'arbre. On ne veut même plus voir le fruit du mariage. C'est bon comme ça. Divorçons. C'est quel homme? Depuis on est marié, on n'est pas heureux. Mais tu ne peux pas être la joie parfaite. Il y a une autre joie que Dieu donne dans la première saison qui vous fait attendre le temps de la vraie joie. Un foyer n'a jamais atteint la vraie joie au début du mariage, c'est pas possible. Il y a un type de bonheur qui vous fait attendre le vrai fruit de votre mariage. Si vous vous contentez de votre première joie, qu'on appelle le coup de foudre, où tu es trop fond de ton mari, là, ça va passer. Hein? Quand tu le vois, waouh, ça finit. Ça là, ça finit. Après 3 ans, 4 ans de relation, tes yeux vont s'ouvrir. Tu as dit, la femme là, même. Donc, reste calme, c'est une saison. Il faut savoir les saisons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous parlerons de toutes ces choses. Alors tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas savoir. Tu vas discerner. Et tu vas savoir agir. Si tu sais que ton cacaoyer va donner, ou bien ton EVA va donner dans 4 ans, tu sais attendre. Mais si tu ne connais pas la règle, tu vas dire, mais tous les EVA ici donnent. Pourquoi pour moi là ne donne pas? Coupez-moi ces arbres. On va dire, tu es fou. Tu es fou. Tu es folle, ma soeur. Ce que tu attends ne peut pas produire, ne peut pas apparaître maintenant. Quand tu as marié ton conjoint, vous êtes marié, à quel âge était-il? Quel était son niveau réel? Toi-même, tu avais quel âge? Spirituellement parlant, pas physiquement. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement à faire? Quand l'éveil ne donne pas encore, il faut l'entretenir. Quand le cacao ne donne pas encore, il faut l'entretenir. Quand le foyer n'a pas atteint la période où il doit donner le fruit, il y a quelque chose à faire. Si tu ne fais pas ces choses-là, que tu es là seulement en train d'attendre les fruits dans les arbres, tu n'auras pas les fruits. Parce que ce n'est pas la saison de moissonner, c'est la saison d'arroser. C'est la saison de mettre des engrais, pas la saison de manger. Il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Dans le foyer, dans la vie, il y a un temps pour rencontrer l'homme de sa vie. Il y a un temps pour tout. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous prépare. Alors dimanche prochain, si vous aimez un ami, si vous vous aimez vous-même, vous n'allez pas manquer ce moment. On va revoir le protocole pour un mariage réussi, le protocole de la porte de Siméon, le protocole pour réussir son mariage. Tu dois absolument réussir ce mariage parce que c'est important pour ta vie, c'est important pour ton destin, c'est important pour tes enfants, c'est important. Le monde est en train d'échouer, mais toi tu appartiens à Christ. La promesse est en toi. Tu n'as pas le droit d'échouer. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, dispose cette assemblée pour cette période où tu vas nous donner de parler de la famille, du couple, du mariage. Étends réellement ta main. Oh, le mois de l'amitié commence, les semaines qui viennent, Seigneur Dieu. Manifeste ta grâce afin que nous puissions inviter tant de couples dans la détresse, tant de personnes qui ne savent pas comment aborder ce sujet, tant de personnes qui sont ignorantes des réalités du mariage selon Dieu. Car c'est toi
le fabricant, l'auteur du mariage. Ouvre nos yeux afin que nous puissions saisir ces paroles. Béni sois-tu, Dieu vivant. Merci, Père, pour cette introduction. Dispose nos cœurs, que nos cœurs ne se rebellent pas, mais que nous soyons là simplement attentifs afin de recevoir de toi quelque chose durant ces jours qui viennent. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen.
Motivé par cet enseignement, désires-tu plus ? Rendez-vous à la librairie ou à l'espace discographique proche de chez toi. Pour d'autres compléments d'information, contacte-nous au 22 41 29 80 02 61 30 63 ou écris-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous t'invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com ou rejoins-nous à l'église Vase d'Honneur. Merci et demeure béni.